C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par la barricade à l'Université McGill, parce que en l'espace de quoi, 24 heures, 48 heures, cette manifestation a pris une tournure différente. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? On a des militants pro-palestiniens qui demandent l'arrêt de la guerre et l'arrêt du soutien à Israël, qui se sont installés. Bon, c'est McGill, mais aussi beaucoup de manifestants qui viennent de d'autres universités. On parle d'étudiants, mais également de professeurs qui se sont joints à ce mouvement de résistance. Et ils ont déployé autour du campus, autour du campement, des barricades. Réponse de l'Université McGill, il y aura une demande d'injonction qui sera présentée et débattue aujourd'hui. On laisse sous-entendre qu'on pourrait forcer le démantèlement de ce campement, de ces barricades. Le SPVM dit ne pas avoir reçu une requête officielle de l'Université McGill, mais c'est pas impossible que ça évolue très rapidement. Les étudiants qui sont là disent qu'ils n'ont pas l'intention de bouger, qu'ils vont demeurer sur place et martèlent le message qu'on entend et qui résonne sur beaucoup de campus. Je vous parlerai dans deux instants de Columbia, qui est un peu l'épicentre de cette contestation. Donc, on verra si l'injonction sera accordée. Est-ce qu'on a l'intention de faire respecter cette injonction? Et est-ce que ça veut dire l'usage de la force? Il y a eu encore hier des arrestations dans certains campus aux États-Unis. Et on a vu, par exemple, que même à Columbia, ils ont pris d'assaut un immeuble et ils se sont barricadés à l'intérieur. L'autre élément qu'il faut mettre en lumière, McGill dit avoir des preuves vidéo du comportement raciste, antisémite de certains manifestants. Donc, que des propos haineux ont été prononcés. Les manifestants, et il y a des Juifs qui manifestent contre la guerre, contre la stratégie d'Israël, et qui dénoncent cette cascade de violence. Je rappelle, il y a plus de 33 000 Palestiniens qui sont décédés dans ces opérations. Ce qui veut dire qu'il y a donc des manifestants pro-Palestine, des manifestants contre la stratégie d'Israël. Et c'est sûr que, autant aux États-Unis qu'ici, toujours difficile de déterminer qui sont parmi les manifestants, des gens qui vouent une haine et sont carrément antisémites. Parce que de contester une stratégie militaire d'un État, c'est une chose, puis on a le droit de le faire. Et l'antisémitisme, c'est autre chose. Il y a un professeur juif de McGill que j'entendais hier qui dit « Je sais ce que c'est le sioniste et je sais ce que c'est de voir des gens qui utilisent l'antisémitisme pour justifier la répression puis interdire la parole. » Ce sont des armes extrêmement délicates. Alors, on fera le point aussi sur la situation à Gaza avec Jean-François Lépine tantôt, toujours à la recherche d'un cessez-le-feu et éventuellement de la libération d'otages. Et puis, pour l'Ukraine, vous dire qu'il y a 4 personnes qui sont décédées, plusieurs blessées dans une attaque de missiles sur Odessa. Également, il y a des armes venant de Corée du Nord qui ont été utilisées. Il y a un soldat allemand qui a été jugé pour espionnage au profit de Moscou. Et vous avez le président Zelensky qui demande, lui, d'accélérer la livraison d'armes pour faire échouer l'offensive russe. On sent de plus en plus que l'Ukraine est vraiment en difficulté. Et puis, hier, vous dire que ces policiers, Marshall et autres, là, qui se sont rendus à Charlotte, en Caroline du Nord, pour aller arrêter un individu, ils avaient un mandat, quelqu'un qui est en possession d'armes, et ça a viré en fusillade. Il y a 4 policiers qui ont été abattus. L'homme en question est mort également, et ça a duré à peu près 3 heures. C'est plein de douille partout autour. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, le gars est décédé, il y avait 2 autres personnes à l'intérieur. Mais c'est évidemment un massacre assez incroyable à Charlotte. Chez nous, parlons des 2 nominations. La PDG de la nouvelle Agence de santé Québec et le numéro 2, Geneviève Biron, c'est l'ex-patronne du groupe santé Biron, qui avait quitté il n'y a pas si longtemps, qui a mis sur pied un fonds d'investissement pour soutenir notamment la technologie, les sciences de la santé, des applications. Je suis allé voir ça hier. Et Frédéric Abergel, qui est le PDG du CHUM, qui devient donc le VP responsable des opérations. Les deux premières nominations. Je regarde les commentaires ce matin, puis j'en ai reçu beaucoup dans ma boîte de courriel, mais je fais le tour des journaux, là. On se dit, c'est une Top Gun qui vient du privé, puis du privé en santé. Alors, c'est sûr que de dire que quelqu'un a œuvré dans l'univers privé, c'est pratiquement, là, c'est un problème, là. Puis on se méfie, puis on se dit, est-ce que c'est pas une business, un hôpital? Toujours penser que c'est important d'avoir quelqu'un qui avait une sensibilité pour le service à la clientèle, plutôt que des bureaucrates obsédés par se protéger entre eux, monter dans la structure et avoir, contrairement au message, le patient assez loin dans leurs priorités. C'est pas le cas de tous les gestionnaires du réseau de la santé, on s'entend, là. Mais, donc, il y a cette réaction-là. Puis c'est vrai qu'il y a des conflits d'intérêts, OK? Son conjoint avocat et pratique le droit dans le domaine de la santé. Elle n'a plus d'intérêt dans le groupe Biron, mais le groupe Biron fait du lobbying auprès du gouvernement. Mais elle n'est plus impliquée directement. Elle dit qu'elle va avoir autour d'elle, sur le plan de la déontologie, une muraille de Chine pour éviter des problèmes. Au moins c'est connu, au moins c'est clair. Puis on peut au moins se dire, laissons la chance à quelqu'un qui débarque avant de juger. Ce qui m'a plus fatigué, je dois dire, c'est la nomination de M. Abergel. Et je suis pas le seul parce que partout où il est passé, Sacré-Cœur, par exemple, le CHUM, je vous jure qu'il y a personne qui pleure son départ, là. La réaction ou les réactions que je reçois, c'est de dire qu'il est le bureaucrate, je le connais pas, là, puis je dis pas ça, c'est pas personnel, là, qui incarne le mammouth, la machine. C'est lui qui va mener les opérations. Puis, je regarde à l'époque de Fabrice Brunet, qui était patron du CHUM, qui a organisé le déménagement. C'est un gestionnaire de talent, de haut niveau, qui a fait du CHUM ce qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il a quand même accompli des choses assez records, avec comme priorité le service aux patients. Dans le cas de M. Abergel, son fait d'arme depuis qu'il est nommé, c'est d'avoir donné un contrat à l'École nationale de l'humour pour enseigner l'humour à des gestionnaires. Moi, quand quelqu'un fait ça, là, juste ça, me dit, il n'a rien compris. Et c'est le numéro 2 de l'agence. L'autre chose qui est bizarre, ce sont des nominations pour 3 ans. Initialement, ça devait être un contrat de 5 ans. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi 3 ans? Est-ce qu'en 3 ans, t'es en mesure de changer la culture, de prendre connaissance de cet environnement, de ces centaines de milliers de travailleurs? Ça me semble tout un défi. Alors, Mme Biron sera avec nous ce matin pour parler de ça. Mais cette espèce de réflexe au Québec de dire « Hey, c'est effrayant, travailler au privé, c'est sûr que... » Non. Au contraire, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui n'est pas directement là débarqué d'une tablette du ministère ou qui arrive, qui a passé sa vie dans le mammouth. Quelle sera la place des médecins dans la structure? Il y a toute la question, par exemple, des vice-présidences spécialisées, santé mentale, on peut penser cancer, le ministre dit non à ça, mais comment ce sera structuré? Parce que ce n'est pas une personne ou deux personnes qui vont faire en sorte que ça marche. Et d'ailleurs, ce matin, je regarde dans Le Devoir, c'est un cri du cœur des médecins des Hautes-Laurentides. Après l'Outaouais, ces médecins-là, 12 urgentologues, qui envoient une lettre au Devoir pour dire que, d'abord, l'hôpital est vétuste, que c'est inacceptable, et qu'il y a un manque de personnel criant. Selon eux, la vie de patients pourrait être mise en danger. On a entendu la même chose venant de l'Outaouais. Et encore là, toute la question de l'imagerie qui pose problème. Et urgence qui déborde, il y a une urgentologue qui témoigne, qui dit « j'entends sonner, puis je suis pas capable d'aller répondre, puis les infirmières sont déjà occupées ». Donc, la population des Hautes-Laurentides, l'hôpital de Mont-Laurier, ce sont des gens qui sont mal servis et c'est pas acceptable, malgré des promesses qui datent de 10 ans. Fait que vous comprenez qu'on accueille avec, je dirais, le respect de circonstances, les gens qui prennent la direction de Santé Québec, mais vous nous permettrez d'être critiques, méfiants, vigilants, parce qu'il y a beaucoup de paroles, puis des fois, ça donne pas grand-chose. En parlant de mélange de privé et de public, ça, c'est un cas. Au fédéral, on l'a vu avec ArriveCan, l'application qui est un scandale financier puis d'une magouille. Là, cette fois, c'est l'intelligence artificielle qui a été utilisée pour régler les problèmes du système de paye Phoenix. La presse nous dit ce matin qu'un haut dirigeant avait 2 emplois. Travaillait pour l'État, puis travaillait également pour son entreprise. Il a été embauché, compagnie privée, là, pour gérer les problèmes de paye du système Phoenix et essayer de trouver une solution avec de l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui n'étaient pas confortables de voir quelqu'un qui a une entreprise, travaille pour l'État, puis les deux sont liés. Il y a des gens qui ont dénoncé ça, et là, on a tout arrêté. Comment ça se fait que quelqu'un qui travaille pour la fonction publique peut avoir comme ça une entreprise privée qui fait affaire avec le gouvernement canadien. Et puis, au-delà de ça, les fonctionnaires fédéraux sont furieux parce qu'on va les obliger à se présenter au travail plus souvent. Et j'ai vu ça ce matin, il y a, disons, une réaction assez hostile de la part des employés fédéraux. Donc, on va limiter le télétravail, puis on va faire en sorte qu'ils vont se présenter 3 jours par semaine au bureau. Et là, tu sais, avant, on se rendait 5 jours par semaine. Puis là, on dit, tu vas te rendre 3 jours, et c'est devenu problématique. Et c'est pas tout le monde qui peut, évidemment, faire du télétravail. Je reviens très rapidement sur la vague qui secoue Québec solidaire avec la démission d'Émilise Lessard-Terrien. Et on va appeler un chat, là. Tout le monde hier a été très poli, là, puis on est très diplomate. D'abord, c'est un conflit avec Gabriel Nadeau-Dubois et son entourage. Premier constat qu'on fait, là, et je dis pas que c'est la faute de Gabriel Nadeau-Dubois, je dis qu'il y avait visiblement et très clairement un conflit entre les deux. Elle n'a pas pu se déployer. Elle ne siégeait pas à l'Assemblée nationale. Elle habite en Abitibi, donc des déplacements pas simples. Il y a une question financière. Québec solidaire a été obligé de mettre à pied des employés parce que moins d'argent, ça lève pas dans les sondages et c'est un parti idéologique. Et on se souvient également des sorties de Catherine Dorion qui pointait Gabriel Nadeau-Dubois. Là, c'est Mme Lessard-Terrien qui pointe Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a bien des gens qui ont dit Catherine Dorion, il va un peu fort. Mais c'est sûr que quand vous avez une structure de parti avec 2 porte-paroles, un chef obscur qui reste derrière des rideaux et que vous avez un politbureau qui vous dit quoi dire, ben ça amène des tensions. Alors, je sais qu'hier, il a pris une partie de la responsabilité, là, mais j'ai trouvé que c'était... Oh non, il n'y a pas de crise, pardon, il n'y a pas de crise à Québec solidaire. Oui, il y a une crise à Québec solidaire, là. Et c'est comme une espèce de feu qui couvre, puis que ben, hier, c'était un peu l'explosion. Bon, on va parler encore une fois de la DPJ et de l'individu qui était chef de famille d'accueil, foyer d'accueil, qui a été condamné à 9 ans de prison. J'en parlais tantôt rapidement avec Bénédicte. Mais essentiellement, l'histoire est la suivante. Le gars s'appelle Alain Lavallée. Lui et sa conjointe ont une famille d'accueil. Puis ils sont une famille, enfin, ils représentent une famille qui accueille des enfants. 9 ans de prison, pourquoi? Parce qu'il a violé à répétition une petite fille pendant 4 ans. Il faisait sortir les autres enfants qui étaient là pour pouvoir abuser de la petite. Non seulement il a violé la petite fille pendant cette longue période de temps, c'était quasi au quotidien, là. Il attendait que madame parte, tassait les autres enfants, puis s'en prenait à la petite. En plus, il a aussi agressé une femme de 30 ans et 2 adolescentes. L'une d'elles avait dénoncé. La DPJ était intervenue, puis il n'y a pas eu de suite. Pourquoi? On ne l'a pas cru? Ça nous rappelle une cause récente dont on parlait pas plus tard que la semaine passée. C'est dégoûtant. C'est inacceptable, évidemment. Mais ça amène plein de questions. Je vois et j'ai reçu tellement de messages de familles d'accueil potentielles qui se sont fait refuser un mandat par la DPJ avec une série de prétextes. Je n'ai pas enquêté, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'autant la DPJ a l'air pointilleux, autant, tu sais, ces 60-70 enfants placés dans la région de Québec, on n'a rien remarqué à travers la gestion des dossiers, les visites, que ces enfants-là étaient abusés. Alors, donc, on parle d'un gars, 9 ans de prison. C'est épouvantable. C'est épouvantable, ce qu'il a fait. Ce matin, je lis les propos du ministre Lionel Carman, qui est responsable de la DPJ, qui était outré, scandalisé la semaine passée d'apprendre qu'on avait comme ça, à Val-Bélair, promené des enfants dans une famille de monstres. Parce que la semaine passée, il y avait le père, il y avait le fils, il y avait le beau-frère. Ils étaient 3 à abuser. Monsieur Carman, 5 ans après la mort de la petite à Grimbé, après la commission Laurent, nous dit que, essentiellement, les 3/4 des enfants de la DPJ ne devraient pas s'y trouver. C'est pas à la DPJ de s'occuper de ces enfants. Ils devraient être vus en première ligne, soignés par des médecins, traités dans un hôpital, mais c'est pas la job de la DPJ. 3/4. Je vous entends me dire, oui, mais où sont les parents? Mais il y a des parents incompétents, puis il y a des parents absents, puis il y a des parents qui sont dangereux pour les enfants, puis il y a des parents aussi qui sont débordés, qui n'en peuvent plus et qui disent, j'en viens plus à bout, là. C'est quelqu'un qui peut m'aider. Il a peut-être raison que beaucoup de ces enfants ne devraient pas se retrouver en centre jeunesse. Mais la question, ces enfants-là, on les envoie où? Qui peut les aider? On fait quoi avec eux? Et il y a quelque chose, là, peut-être de logique dans son propos, mais en même temps, ça manque d'humanité. Il n'est pas reconnu pour quelqu'un qui n'a pas d'humanité. Mais là, là, tu dis quoi à ses parents qui ne savent plus quoi faire parce que le kid est dans un cycle de violence puis de délinquance ou qui a des problèmes d'adaptation puis qu'on n'est pas capable de lui fournir des ressources. Alors, de dire là qu'un jeune sur 10 ne devrait pas être en centre de réadaptation, je dis au ministre Carman, OK, on les envoie où? On fait quoi avec eux? Là, on est en train de pelleter des enfants. Là. Nouvelle approche au Québec. Là. Prends appel puis on lance les enfants un peu plus loin en disant, écoute, pas ici qu'on devrait s'en occuper. Puis pendant ce temps-là, vous avez des intervenants puis des intervenants sur qui on met des pressions pour réduire les listes d'attente. Ce qui me ramène à Santé Québec, profil plus large. Parce que on comprend que ça devient l'employeur unique, mais j'ai hâte de voir si, au-delà des données statistiques, les Québécois vont avoir un meilleur service. Et veut, veut pas, à la prochaine élection, le gouvernement va être évalué là-dessus. Là. Il remonte un peu dans les sondages, demeure bas, mais ça remonte un peu. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est du service. Ça sera jamais 100% là, le système de santé. Mais est-ce que ça va être mieux? Est-ce que le temps d'attente va être moindre? Est-ce qu'on va pouvoir se trouver un médecin plus facilement? Rapidement, dans les autres nouvelles, il y a un rapport qui est sorti en France qui préconise d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans et d'interdire les téléphones intelligents, là, les fameux portables, au moins de 11 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans fait avec un téléphone? C'est la croire, mais il y en a. Donc, pourquoi? Ben, la dépendance, évidemment, aux écrans, le fait que ces écrans servent à contrôler, à monétiser les enfants et à créer une forme de dépendance. Je rappelle qu'en Ontario, on va interdire ça dans les salles de cours au secondaire complètement, mais aussi dans les écoles au primaire. Le Journal de Montréal nous parle de système anti-vol pour contrer le vol de viande. C'est qu'il y a toujours eu du vol à l'étalage, mais avec la crise économique puis le fait que la viande coûte de plus en plus cher, ben on se retrouve avec des systèmes sur des systèmes anti-vol sur le bœuf. Et vous avez une photo ce matin de ça en disant, puis il y a une espèce d'étiquette qui dit que votre steak est présentement verrouillé et que vous pouvez pas le voler. Si vous voulez l'avoir, ben il faut le payer. L'Ontario est en train de se battre contre le gouvernement fédéral. Bon, on a décriminalisé les drogues douces, cannabis et autres. Et en Colombie-Britannique, on s'est dit, avec les petites quantités, on va laisser les gens consommer des drogues dures. Et dans la liste, on retrouve héroïne, fentanyl, cocaïne, et c'est le chaos en Colombie-Britannique. À tel point qu'ils demandent de modifier la loi pour rendre, en fait, pour interdire la consommation dans les lieux publics. Et l'Ontario est en train de se battre avec Toronto, sa capitale, pardon, parce que on est face à ce même problème. Tout ça pour lutter contre la crise des opioïdes en disant rendons ça légal. Il y a toujours une belle bonne intention derrière ça, mais malheureusement, ça dégénère complètement. Puis là, vous avez ces scènes partout dans les rues de Vancouver depuis longtemps. Puis c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et puis en terminant, Gérard Depardieu, qui hier matin était placé en garde à vue, finalement, il est cité à procès pour agression sexuelle. Ça aura lieu l'automne prochain.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On sait qu'il y aura une contestation de la loi 21 devant la Cour suprême. Plusieurs groupes ont décidé de lever la main. Il y aura une demande qui va être déposée, entre autres, par le Conseil national des musulmans canadiens. Puis on a appris que la Fédération autonome de l'enseignement voulait se joindre à ces groupes de pression pour combattre la loi qui a été adoptée. La présidente de la FAE est avec nous, Mélanie Hubert. Madame Hubert, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
J'allais vous dire gentiment et poliment, mais vous vous mêlez de quoi?
Bien, d'abord, on défend les droits d'employés des centres de services scolaires qu'on a bafoué leurs droits. Là, je pense notamment à leur droit de la liberté de religion, mais surtout le droit à l'égalité. Donc, la première chose qu'on fait, c'est se porter à la défense des droits des travailleurs et travailleuses qu'on représente. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est la question du respect des droits fondamentaux de l'ensemble de nos membres qui peut être vraiment question en ce moment parce que l'utilisation de la clause dérogatoire comme elle s'est faite, par le passé aussi basé sur les décisions du tribunal là, de la Cour suprême en 1988, ben n'importe quel autre droit pourrait être bafoué dans le futur, notamment le droit de grève, le droit d'association, et c'est un peu ça qu'on vise par notre recours à la Cour suprême, venir encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire.
OK. Si je reviens à la laïcité, pourriez-vous être plus précis sur les droits de vos membres qui ont été bafoués?
Tout a commencé avant même l'adoption de la loi. Dans cette année scolaire-là, le gouvernement avait demandé au centre de services scolaires de procéder à un dénombrement des gens qui portaient un signe religieux à l'école ou dans les centres, évidemment. Donc, cette première étape-là, quand les profs ont appris qu'ils étaient visés par cette demande-là et quand le projet de loi est sorti par la suite, on a compris que ça visait à les congédier s'ils portaient les signes religieux. Ça a été une première étape qu'on a contesté pour dire vous ingérez dans la vie privée des gens, nous on souhaite pas que ça se passe, que vous êtes en train d'aller, vous allez trop loin. Ça, c'était la première étape. Et quand la loi a été adoptée, on le sait maintenant, là, il y a eu une clause grand-père qui a permis aux membres en place de pouvoir conserver leurs signes religieux, mais ils sont privés en ce moment de promotion, donc ils ne peuvent pas changer de poste dans la même organisation scolaire et ils ne peuvent pas non plus changer de centre de service scolaire.
Mais ça, je comprends ce que vous me dites. Moi, ce qu'on me raconte, c'est qu'en 2012, les membres de la FAE se sont prononcés à 77% pour la résolution suivante. Les représentants et représentantes de l'État doivent s'abstenir d'afficher des signes religieux visibles. Votre monde était d'accord avec ça?
Il y a eu autour de ces années-là, vous avez raison, il y a eu un sondage qui avait été mené auprès des membres, puis après ça, il y a eu une décision de congrès qui a été prise en 2013, et le congrès, quand ils ont réfléchi sous l'angle protection du droit au travail, la proposition qui avait été adoptée, c'est de se prononcer à la défense des droits acquis des membres pour leur signe religieux, à moins que ça contrevienne.
Le 77% est passé à 49. Votre monde est divisé sur la question. Est-ce qu'on peut dire ça?
Je peux pas nier ça. Vous avez raison, c'est un débat qui polarise. Puis même au moment du congrès de 2013, nos membres là-dessus, ça fait appel à nos valeurs, à nos convictions. C'est un débat qui n'est pas simple puis qui n'est pas facile là, à aborder, ni dans l'espace public, ni dans nos instances. C'est toujours un sujet délicat, okay. Comme d'autres sujets d'ailleurs.
Ouais, mais vos membres me disent deux choses, puis je veux vous entendre là-dessus. D'abord, paraît qu'il n'y a pas moyen de savoir combien ça coûte, cette démarche-là, depuis le début. La FAE a dépensé combien en honoraires d'avocats ou autres là, dans ce dossier-là?
On en a fait rapport il n'y a pas si longtemps encore à notre conseil fédératif, mais je peux vous donner le chiffre. Là, on oui. a fait les calculs. Depuis notre première intervention à propos du dénombrement, c'est à peu près un petit peu moins de 1,2 million qui ont été versés dans cette cause-là, là, donc sur 8 ans. Puis pour vous donner un ordre de grandeur, sur la même période, pour tous les autres frais juridiques, que ça soit en lien avec la COVID, que ça soit en lien avec des dossiers dans des centres de services, mais vous donner un ordre de grandeur, 2,7 millions ont été donnés sur d'autres
mais
causes
là,
juridiques.
On ne viendra pas noyer le poisson. Là. Vous avez dépensé plus d'un million des cotisations de vos membres. Puis ils n'ont même pas de fonds de grève. Là, c'est pas moi, là, ça me touche pas, mais vos membres, ils me disent ça. On part en grève, on n'a pas de fonds de grève, puis vous dépensez 1 million en frais d'avocat pour une cause qui divise vos membres en plus.
Ça peut sembler, quand on le regarde comme ça, je peux pas dire le contraire, là, je le comprends ce que vous me dites, mais ce 1,2 million-là, il est dans des frais juridiques, des expertises et tout ça, qui visent, je le rappelle, pas juste à défendre les droits des personnes visées par la loi 21. Nous, notre prétention, c'est de dire cette utilisation de la clause dérogatoire qui a été faite là, elle est une menace pour l'ensemble de nos membres sur d'autres droits fondamentaux.
Mais il y a d'autres groupes qui vont devant la Cour suprême. Pourquoi vous les laissez pas faire? La Cour suprême va finir par se prononcer. Vous n'allez pas à prendre l'argent de vos membres pour ça?
Ben, les autres groupes vont se prononcer, mais avec leurs propres arguments qui ne sont pas les nôtres. Je donne l'exemple d'English Montreal, là, qui va aussi aller devant les tribunaux. C'est probablement l'intervenant que je connais le mieux. Ben, eux, ils sont sur les droits constitutionnels qu'ils ont de se gouverner parce qu'ils sont, des commissions scolaires anglophones. Ils sont pas sur les mêmes angles. Ils viendront pas défendre le même point de vue en Cour suprême. Donc, nous sommes porteurs de notre propre cause et de notre propre problématique. La question du dénombrement aussi n'est pas une question qu'aucun autre groupe va pouvoir aborder en Cour suprême.
C'est quand la dernière fois que vous avez sondé vos membres, pas juste l'exécutif syndical ou les 200 quelques là, qui font partie de votre structure syndicale, là, mais depuis quand vous avez consulté les membres sur cette question-là?
Depuis le congrès de 2013, la question n'a pas été réabordée
dans nos instances. 11 ans?
On n'a pas réabordé la question depuis ce temps-là sur la question comme telle des signes religieux ou de nouveaux éléments. On n'a pas fait d'autres consultations là-dessus.
OK. Merci, Mme Hubert. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Mélanie Hubert est la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Ben, la nomination est tombée hier. Geneviève Biron devient la grande patronne, première PDG de Santé Québec. Elle est avec nous ce matin. Madame Biron, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Monsieur Arcan.
Madame Biron, d'abord, est-ce que c'est vous qui avez levé la main ou on vous a incité à lever la main?
Ben, écoutez, moi, j'ai entendu parler de ce poste-là. Évidemment, j'avais de l'intérêt. Puis, j'ai réfléchi tout ça, j'ai regardé le processus. Puis, éventuellement, il y a quelqu'un qui m'a approché puis m'a dit, ben pourquoi tu déposes pas ta candidature? Puis encore là, tu sais, ça m'a pris un petit peu de temps de réflexion. J'avais entendu qu'il y avait 50 personnes qui avaient appliqué sur le poste, là. Tout le monde en parle. Et, le cheminement, c'est continué, là. Puis, éventuellement, là, je me suis dit, bon, je mets mon nom dans le chapeau, puis je vais faire le processus. Et à travers ce processus-là, je vais vous dire que j'avais aussi l'intérêt de partager ce que je voyais, tu sais, ce que je voudrais mettre en place. Et c'est comme ça que j'ai pris le processus. Puis, écoutez, je pense qu'ils ont aimé ce que j'ai présenté parce qu'ils m'ont demandé.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec Santé Québec? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, comme vous dites?
Ah, je veux changer les choses. Dans le fond, là, ma posture, là, c'est que je me dis, moi, je suis un gradin là, depuis longtemps, là, comme tout le monde. Là. Puis je critique, pas nécessairement ouvertement, mais j'ai ma critique à moi. Et là, je me dis, ben là, j'ai la chance de retrousser les manches, là, puis d'aller faire quelque chose. Puis c'est comme ça. T'sais, je veux contribuer à ce qu'on ait un système de santé qu'on mérite. On y met beaucoup d'argent. C'est de l'argent. Quand on met dans le système de santé, on ne le met pas ailleurs. Puis je souhaite vraiment qu'on ait des meilleurs résultats, puis qu'on puisse avoir confiance, dans le fond, qu'on a un système qui est là pour nous quand on a besoin.
Parlons un peu de votre parcours. On l'a découvert hier. Bon, les laboratoires Biron, le groupe Biron, Biron Santé, on connaît ça. Vous avez quitté la présidence, vous avez créé une espèce de fonds là, d'investissement. Pourquoi vous avez quitté la présidence, pour commencer, de Biron?
Ben, écoutez, moi, là, j'ai passé 30 ans dans l'entreprise. J'ai fait des ressources humaines initialement, aux opérations. Éventuellement, j'ai fait un parcours entrepreneurship là, où j'ai vraiment bâti Imagix, qui est le réseau clinique de radiologie. Puis après ça, j'ai été à la tête de Biron pendant 7 ans, repositionné l'entreprise. Et j'ai toujours changé de fonction aux 5 ou 7 ans. Puis à un moment donné, on est arrivé là, en 2021 où j'étais mûre là, pour faire autre chose. Je voulais investir dans des sociétés qui étaient en phase d'amorçage, ce qu'on appelle des start-up. Top, là, puis les aider à grandir. Alors, c'est là que Propulia Capital a été fondée, ou du moins, je me suis vraiment plus investie dans Propulia Capital à ce moment-là. Puis, c'est ça que j'ai fait là, dans les 3 dernières années.
Et là, vous n'avez plus d'intérêt financier dans Biron?
J'ai pas d'intérêt aucunement dans Biron.
OK. Est-ce que vous êtes dans les... Parce que je regardais un peu le site web de votre fonds de placement, là, d'investissement. Il y a quand même des entreprises qui se développent en santé. Mm-hmm. Vous allez faire quoi avec le fonds? Comment vous allez conjuguer votre poste et le fonds en question?
Bien, écoutez, le Propulia Capital, ça a été vraiment l'intention d'investir dans le capital de risque. Et quand je suis arrivée l'année dernière, j'ai essayé de réfléchir à est-ce qu'on lève un plus grand fonds? Est-ce qu'on va chercher du capital de d'autres, là, comme on voit dans des fonds de capital de risque? Puis la longue histoire courte, là, en décembre, j'ai décidé que c'était vraiment pas la prochaine voie là, pour moi. Alors, j'ai fait des investissements. Ça va rester dans ces investissements-là. Je ne poursuis pas de nouveaux investissements dans le futur. Alors, c'est l'enveloppe qui est là présentement.
Mais parmi les entreprises dans lesquelles vous avez investi, il y en a qui vont faire affaire avec l'agence ou le ministère?
Bien, écoutez, il y en a deux là, qui sont dans le volet de santé. Une qui est en Europe, une autre qui est au Québec. Quand on a fait tout le parcours avec le processus là, de nomination, il y a énormément de vérifications qui sont faites. Puis évidemment, Santé Québec, ça se constitue maintenant. Alors, est-ce qu'ils vont travailler avec Santé Québec ou non? Il fallait présumer que oui. Alors, tu sais, c'est trop tôt pour le savoir. Mais et si c'est le cas, et c'est la structure qu'on a mis dans le fond pour tout, c'est que moi, je me suis engagée de mettre en place là, l'encadrement qu'il faut pour que j'aie pas de droit de regard sur quoi que ce soit dans ces investissements-là. Alors, c'est la conclusion là, qu'on est arrivé et l'engagement que j'ai pris.
La muraille de Chine dont vous avez parlé hier, là, c'est ça, pour éviter des conflits d'intérêts possibles, potentiels.
Oui, bien, il y a deux choses, OK? Il y a muraille de Chine, ça, c'est la partie famille, et la partie mandat sans droit de regard, là, et de s'éloigner, dans le fond, des décisions, ça, c'est la partie pour les investissements. Alors, je pense qu'hier, on n'était peut-être pas assez clair, puis c'était peut-être pas la tribune non plus pour l'expliquer, là, mais c'est vraiment, dans le fond, deux mécanismes là, différents pour adresser, dans le fond, deux potentiels conflits d'intérêts, mais de nature différente.
OK. Alors, on a parlé de votre conjoint qui est avocat, qui est spécialisé en santé. Comment vous allez gérer ça aussi?
Bien, mon conjoint a pratiqué le droit 30 ans. Il est spécialisé en droit médical. Aujourd'hui, il est conseiller stratégique. Il travaille, il y a des mandats avec certains établissements pour des choses très, très particulières. Alors moi, ce que je souhaitais, c'est pas lui nuire, tu sais. Je voulais faire en sorte que il ait son...
Ce qui fait qu'il vit sa carrière.
Mais oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on en a parlé dans le processus de nomination. Tu sais, qu'est-ce qu'on met en place là pour s'assurer que lui, il peut poursuivre ses activités, puis moi, je vais faire les miennes. Mais évidemment, on s'engage à ne pas communiquer quoi que ce soit là, dans nos dossiers.
Parlons du fond du mandat parce que c'est important. Là. Est-ce que vous êtes favorable à la présence du privé en santé, puis même à accorder plus de place? On voit des formes actuellement de corridors pour des chirurgies vers des cliniques médicales. Il y a de l'imagerie qui se fait dans vos entreprises, enfin vos anciennes entreprises, puis c'est payé par l'État. Jusqu'où on a de la place pour le privé dans le réseau de la santé?
Ben, moi, je veux vraiment dire que j'arrive avec un système public que je veux fort, puis je veux performant, puis je veux qu'il fonctionne. J'arrive pas en me disant, tu sais, j'ai des intentions d'un ou l'autre. Là, c'est trop tôt pour parler de ça. Je veux qu'on mette tout le monde à contribution, autant la population que les gens qui travaillent, les professionnels, les gens d'entretien, les médecins. Tu sais, il faut mettre tout le monde à contribution. Puis, tu sais, je trouve qu'on parle beaucoup du privé, mais en même temps, il est là. Puis le privé, tu sais, je vais vous dire, moi, j'ai une physiothérapeute extraordinaire. Elle a son cabinet privé. Alors, tu sais, le privé, ça a beaucoup de définitions. Je pense que, donnons-nous le temps de voir là, comment les choses vont se passer. Puis, on va prendre les meilleures décisions pour...
Mais là, vous allez être sous pression. C'est assez extraordinaire d'avoir des centaines de milliers d'employés, des lobbies de tous les bords, tous les côtés, les syndicats d'un... Je comprends que le ministère va encore faire du travail, mais êtes-vous capable de prendre des décisions qui vont faire mal? Qui vont faire mal à des groupes, à des lobbies, des gens qui vont dire « Hey, je vais me faire haïr pour ça. »
J'ai pas... je pense que j'ai jamais été quelqu'un qu'on a reproché avoir la difficulté à prendre des décisions. Et même, je vous dirais que des fois, on me demande « C'est quoi les décisions difficiles que vous avez prises? » Puis j'ai de la misère à les nommer parce que je trouve que ça fait partie de mon rôle de prendre des décisions. Puis des fois, elles sont difficiles. Est-ce que j'ai l'intention de prendre des décisions pour faire mal aux gens? Non.
Non, pas volontairement, mais si vous dites ça, si ça prend ça, ben il faut...
Ça prend ça, ben c'est ça que ça va prendre. Là. Moi, c'est clair que on va se donner les objectifs, puis on va se donner les moyens d'y arriver. Maintenant, tu sais, je pense qu'on va le faire en dialogue, on va le faire avec en essayant de pouvoir se trouver des voies de passage communes, puis j'ose espérer qu'on ne sera pas en confrontation. Mais au bout de ligne, est-ce que pour certains groupes, ça se peut qu'il y ait des changements? Ben fort possiblement, puis c'est ça que ça va prendre, là.
Pourquoi c'est un mandat de 3 et non pas de 5 ans?
Ben écoutez, moi, je trouvais que 3 ans, là, puis premièrement, je souhaite que les choses bougent, puis que 3 ans, on voit déjà des résultats. Puis je trouvais que 3 ans, c'était une bonne, tu sais, 3 ans, là, ça nous donne vraiment le temps de se connaître, puis de mettre les choses en place, puis je trouvais qu'un mandat de 3 ans, c'était juste la bonne durée.
Monsieur Abergel, c'est vous qui l'avez choisi?
Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Monsieur Abergel, il a vraiment une belle carte de route, il a de l'expérience. Vous savez, là, moi, j'arrive, puis le dossier qui s'est passé il y a 3 ans dans tel département, là, moi, je peux pas connaître ça. J'ai besoin de quelqu'un qui a vraiment l'expérience terrain, mais il sera pas tout seul. On va bâtir une équipe, puis il va y avoir d'autres gens, puis je cherche vraiment à ce qu'on ait des compétences complémentaires là de part et d'autre, puis qu'on puisse vraiment mettre tout le monde là, à contribution pour pouvoir avancer.
Je le connais pas personnellement, mais depuis hier, là, je peux vous dire, les échos sont un petit peu sur la défensive. Est-ce qu'il est là pour protéger le mammouth de la santé à travers la nouvelle structure ou pour faire en sorte que l'agence fonctionne? Ça existe des mandarins de l'État, là, qui ont comme mandat de se protéger eux-mêmes, de protéger la machine, puis faire en sorte que les changements n'arrivent pas. Ça se passe actuellement dans le ministère de la Santé. Comment vous allez me garantir que ça arrivera pas mais, à l'agence?
Écoutez, c'est pas les conversations qu'on a eues ensemble. T'sais, on a vraiment on est en synchro sur la volonté de faire changer les choses, puis à essayer d'enlever le tataouinage, je pense que c'était un... Je vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais je pense que c'est un mot qu'il m'a dit, qui m'avait marqué. Je pense que vraiment, c'est en travaillant ensemble là, qu'on va faire avancer les choses. Là, puis j'ai vraiment confiance qu'on est alignés. De toute façon, moi, je sais ce que je veux faire, puis je m'attendrai pas à avoir des gens qui sont pas alignés dans la même direction. Là, on va travailler ensemble, c'est sûr.
Parfois, il y a des ministres qui se font entouré par la machine, puis qu'à un moment donné, perdre le cap dans tout ça. Puis c'est vrai en éducation, je ne dis pas que c'est le cas du ministère de la Santé, mais ça peut être ça. Comment vous allez vous assurer qu'il n'y aura pas une armée de gens qui arrivent du ministère de la Santé, qui font juste changer de bureau, changer de titre, puis qui vont influencer vos décisions pour neutraliser? Vous allez dire, faites ça, puis vous allez réaliser que c'est pas ça qui arrive. C'est gros, là, de l'agence.
Oui. Puis, on m'en a parlé. Écoutez, tu sais, moi, je vais vraiment focusser sur notre plan, là. Puis on va se donner des objectifs, on va se donner des résultats clés, on va les communiquer, on va travailler en mode agile, là. C'est ce que je fais depuis des années. Et là, c'est sûr que ça va arriver quelqu'un qui va me dire, ah ben non, c'est pas possible. Écoutez, on va y aller à chaque fois, là, puis on va essayer de comprendre pourquoi. Puis peut-être qu'il y a des bonnes raisons aussi, hein, tu sais, on va se donner la chance, là, mais tu sais, je m'attends pas à ce que ce soit ça qui va m'arrêter, là, ou qui va arrêter l'équipe de pouvoir avancer, là.
Le temps d'attente à l'urgence, la liste d'attente pour les chirurgies, la difficulté de trouver un médecin de famille, d'avoir finalement un spécialiste qui peut voir quelqu'un dans un délai qui est raisonnable. Vous commencez par quoi?
Oh, c'est un peu de tout, hein. C'est tellement important, là. L'accès. Moi, ça m'interpelle, là. J'en viens pas qu'on soit encore à des délais aussi longs partout, qu'on n'ait pas accès. Tu sais, je vous dirais là que j'ai vraiment le goût d'attaquer là plusieurs chantiers de front pour qu'on puisse voir une différence. Mais tu sais, je veux me donner le temps aussi de. Il faut quand même écouter, aller un petit peu sur le terrain, de prendre l'information, de se faire un plan. Alors, tu sais, je peux vous garantir que je vais être dans le mouvement puis dans le changement. Puis c'est vraiment l'accès là qui est vraiment la priorité.
Vous avez eu d'énormes pressions, ça vous le savez. C'est pas moi qui vous l'apprends ce matin là.
Moi, je suis. Je dirais que le sentiment qui m'anime, c'est j'ai hâte que les choses bougent, puis de pouvoir aller travailler.
Je pense que les auditeurs et les auditrices sont aussi d'accord avec ça. Ouais. Ils ont hâte de voir que ça soit perceptible, plus qu'un tableau de bord, là, qu'on le sente vraiment.
Je comprends.
Que ça ne soit pas juste des données statistiques. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Bien, merci.
Geneviève Biron, qui est la présidente, la nouvelle présidente, la première et chef de la direction de Santé Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Quand un projet pilote fonctionne, que les gens apprécient, pourquoi commencer à jouer dans la tuyauterie, comme dirait l'autre? C'est ce qui se passe avec le projet de navette fluviale. On peut penser à Boucherville, évidemment, vers le Vieux-Port. Et aussi les gens de Pointe-aux-Trembles qui peuvent prendre cette navette et venir travailler, par exemple, dans le Vieux-Montréal. C'est le cas de notre invitée ce matin, Mélanie Labonté, qui utilise les navettes depuis le tout début. Madame Labonté, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Vous habitez donc dans l'est de Montréal, Pointe-aux-Trembles. D'abord, peut-être nous dire là comment vous avez, je dirais, eu recours à cette navette-là. Vous l'avez pris pourquoi? Puis qu'est-ce que ça change dans votre temps de déplacement?
OK. Donc, moi, en 2015, j'ai déménagé à Pointe-aux-Trembles et je travaillais dans le Vieux-Montréal. J'étais un peu aussi tannée là, du transport. C'est littéralement là, une heure et demie le matin et sensiblement le même temps pour revenir du centre-ville dans l'est de Montréal. Donc, j'ai changé d'emploi. J'ai travaillé à Rivière-des-Prairies. Et en 2018, on a vu une annonce dans le journal local comme quoi il implantait un nouveau projet pilote de navette fluviale qui partait justement du quai du village ici à Pointe-aux-Trembles et qui se rendait au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port. Donc, je l'ai essayé. J'ai fait le test et ça a été vraiment un très bon essai. Et j'ai recontacté mon ancien employeur pour dire, regarde, je crois que avec ce transport-là, durant au moins une période de la saison l'été, ça m'intéresse de retourner travailler, étant donné du court délai de transport. Je ne vous cacherai pas, c'est du quai de Pointe-aux-Trembles au Vieux-Montréal, c'est 30 minutes. Donc, ça sauvait beaucoup de temps et ça me donnait un intérêt supplémentaire de retourner travailler dans le centre-ville. Donc, ce que j'ai fait. En 2019, le projet a augmenté, donc les passages, etc., etc. Et j'ai adapté ce mode de transport. Actuellement, l'hiver, donc je prends l'autobus, la ligne 410 Express. Là, je mentionnais que c'est Express. Là, et ça me prend le matin entre 1h15, 1h30 pour me rendre de Pointe-aux-Trembles au centre-ville de Montréal. Donc, c'est
mais en termes de fréquence, oui. Là, pour vous, oui. C'est ce qu'on appelle les heures de pointe un peu oui. Classique, là. C'était oui. Correct, il n'y avait pas trop de temps d'attente pour le bateau.
Non.
La navette se faisait bien, là.
Oui, absolument. Le temps de passage, je crois que c'est aux 30 minutes. Je sais qu'ils ont ajusté, après la COVID, ils ont ajusté ça un petit peu plus long. Je pense que c'est aux 45 minutes. Mais c'est vraiment aux 30 minutes. Il y a une navette qui vient vous chercher et fait l'aller-retour. Donc, il y en a une qui part de l'est vers le centre-ville et l'autre part du centre-ville vers l'est. Donc, il y a tout le temps un roulement. Il y a des heures très... ils ont mis vraiment des heures pour les gens, justement, qui travaillent dans le centre-ville pour les aider à, justement, voyager.
Bon, là, ce que j'ai compris, c'est que, comme vous aviez pas de nouvelles de l'horaire pour la nouvelle saison, mm-hmm. vous avez décidé d'écrire à l'entreprise là, qui gère ça.
Oui, oui. Chaque année, on voit une annonce qui mentionne le début de la saison. Donc là, on est rendu vers fin avril. Habituellement, ça débute mi-mai. On n'avait pas de nouvelles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai communiqué avec eux par écrit et ils m'ont téléphoné. Une grande surprise. Je m'attendais à recevoir un courriel avec des informations. Et lorsque j'ai parlé à l'agent, il m'a mentionné que oui, ça allait commencer le 18 mai. Cependant, ce serait un service réduit. Donc, la saison serait écourtée par manque de financement des villes.
Est-ce que vous a donné l'ampleur des coupures? Autrement dit, de quelle façon ça affecte le service?
Du tout. C'est seulement un service, ce serait écourté, donc une saison plus courte. Mais il n'a pas été dans les détails du tout. Et là, ça m'a un peu fâché, là, d'une certaine façon, de là de vous avoir écrit parce que je me disais, mais voyons, ça fonctionne. Année après année, on voit une augmentation de l'utilisation, une augmentation d'usagers. Également, l'an dernier, ils ont prolongé la saison jusqu'à la mi-octobre. Donc, tout s'en allait dans le sens d'une implantation sûrement constante de ce service-là.
OK. On a téléphoné à la RTM, là, qui est responsable de la gestion de ces projets régionaux, là, puis de la navette. Officiellement, l'annonce de l'horaire va se faire vendredi. Mm-hmm. Mais ils nous ont jamais dit qu'il n'y aurait pas de réduction de service. Tout ça pour vous dire, puis en même temps aux auditeurs, là, quand la RTM répond pas aux questions ou tente d'éviter les questions en disant « vous verrez vendredi », s'il y avait une bonne nouvelle à nous annoncer, ils nous le diraient. Et tout indique que ce qu'on vous a dit est vrai, là, qu'on s'en va vers une baisse de service. De quelle ampleur, je ne sais pas, mais ça sera pas le même service que l'an dernier. Ça, c'est à peu près garanti.
OK. Bon, on va être plusieurs à être déçus parce qu'on est un bon groupe d'usagers. Et à chaque année, dès que ça termine, on a déjà hâte que la saison suivante reparte. Là. C'est dommage.
On va voir ça vendredi. Merci, Mme Labonté.
C'était plaisir.
Au revoir. Merci. Mélanie Labonté utilise le transport en commun, la navette fluviale. C'est un succès, là, en passant. Et je vous le dis, hier, on tentait d'avoir des informations de la part de la structure créée par le gouvernement du Québec, la RTM. Et puis, pas de réponse. Vous verrez vendredi. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, le vendredi, c'est le meilleur moment parce que ça tombe comme dans les chaises de la fin de semaine. Et ça fait moins de débats. Et pourquoi réduire un service qui fonctionne? On fait la promotion du transport en commun. On n'arrête pas de dire qu'il faut développer des moyens alternatifs de déplacement. C'en est un. C'est un succès. Même chose pour ce qui est de la Rive-Sud, la Boucherville. Et là, tout laisse croire qu'on va malheureusement couper dans un service qui est très populaire. On parlait de Gérard Depardieu hier matin qui avait été placé en garde à vue. Finalement, on a appris plus tard en journée qu'il sera jugé au mois d'octobre pour des agressions sexuelles. Marine Turquie est avec nous, journaliste à Mediapart. Marine Turquie, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier dans la journée, là, après la garde à vue, si vous aviez à faire une chronologie des événements?
Alors effectivement, il a passé une grande partie de la journée Gérard Depardieu en garde à vue où il a été questionné d'abord sur les plaintes de trois femmes qui ont travaillé sur deux films différents, l'une en 2014, les deux autres en 2021. Et puis dans un second temps, il a été confronté à deux de ses plaignantes. C'est une confrontation voilà dans les locaux de la police judiciaire où chacun et chacune a pu faire valoir sa version. À l'issue de tout cela, en fin de journée, on a appris que le parquet de Paris qui avait diligenté cette enquête avait décidé son renvoi direct devant le tribunal correctionnel. Donc ça veut dire concrètement que pour la première fois, il y aura un procès Depardieu et qu'il aura lieu cette année au mois d'octobre. Évidemment, en France, c'est un tournant dans cette affaire, mais c'est un tournant plus largement pour ces affaires de violences sexuelles et pour le mouvement MeToo, puisqu'on a beaucoup d'affaires ces dernières années qui n'avaient pas eu d'aboutissement malgré des accusations nombreuses, précises et diverses. Et là, on avait notamment deux témoignages qui n'étaient pas prescrits. Et c'est ces deux plaintes qui font l'objet d'un renvoi au mois d'octobre. Donc c'est évidemment une décision importante, même si le procès aura lieu, que chacun et chacune pourra donner sa version et que les versions vont forcément diverger puisque Gérard Depardieu conteste toute agression sexuelle. Mais en tout cas, c'est une avancée énorme, c'est assez inédit.
Est-ce qu'il y a d'autres allégations, d'autres procédures qui pourraient mener à d'autres procès?
Oui, alors il faut savoir que Gérard Depardieu aujourd'hui est visé par 5 plaintes pour des accusations de violences sexuelles. Il y avait une 6e plainte, mais elle a été classée en raison de la prescription des faits. Et parmi ces 5 plaintes, il y en a une notamment qui là devrait aboutir, ou en tout cas une décision doit être prise par la juge. C'est la plainte de la jeune actrice Charlotte Arnoul qui a déclenché l'affaire en 2018, qui a porté plainte pour viol. Et c'est ces faits-là qui valent à Gérard Depardieu une mise en examen pour viol. Et là, actuellement, l'instruction arrive d'examen, et puis la juge doit décider si elle rend un non-lieu ou si elle renvoie en procès cette affaire. Donc c'est une affaire qui, évidemment, en France, une affaire avec différentes ramifications dont on parle beaucoup, puisque Gérard Depardieu représente énormément en France. C'est un grand acteur, mais c'est aussi un acteur qui est connu internationalement et qui fait quelque part partie du patrimoine français. Et à ce titre, il avait été défendu par Emmanuel Macron, ce qui avait généré beaucoup de critiques. Donc aujourd'hui, ce qui se passe est évidemment très important et on va suivre de près l'autre affaire, celle de Charlotte Arnoul, pour voir s'il y aura un deuxième procès Depardieu.
Est-ce que ces allégations, ce procès à venir, ont un impact direct sur sa carrière? Est-ce qu'il a été, comme on dit, annulé ou s'il continue de mener sa carrière comme il le fait depuis le début?
Alors, beaucoup de producteurs et productrices qui, il y a encore un an, quand moi je sortais notre enquête à Mediapart avec 13 témoignages, disaient que, bien sûr, ils le referaient à nouveau travailler et que d'ailleurs, il était présumé innocent et qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils ne le feraient plus travailler. Aujourd'hui, les choses ont changé et elles ont changé déjà au mois de décembre quand il y a eu une autre enquête d'un autre média qui a révélé des images où on voit Gérard Depardieu tenir des propos sexuels obscènes en Corée du Nord dans le cadre d'un document qui était réalisé en 2018. Ça a fait l'effet un peu d'une bombe qui s'est ajoutée à nos révélations à nous quelques mois avant. Et là, déjà, il y a eu un peu de gens qui se sont désolidarisés, qui ont quand même mis des distances. Il faut rappeler que les producteurs sur un tournage, ce sont les employeurs, en fait, de toute l'équipe de tournage et qui sont responsables de leur sécurité sur le tournage et que donc aujourd'hui, au vu des accusations qui s'accumulent sur les tournages envers Gérard Depardieu, il y a un risque, en fait, de l'embaucher sur ces tournages. Il y a un risque dans son comportement avec les femmes. Jusqu'à présent, c'est un risque qui n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a très peu de gens pour dire qu'à nouveau, ils le feraient travailler. Il est probable que Gérard Depardieu ne tourne pas, mais ça, c'est pas à moi de le décréter ou de le dire. Mais je constate qu'aujourd'hui, les gens appuient sur le frein. Par contre, les films qu'il a pu faire par le passé continuent d'être diffusés à la télévision, etc. Aussi parce que les films, ce sont des œuvres collectives et que ça ne concerne pas que Gérard Depardieu. Par contre, je pense qu'il y aura plus de difficultés à être célébré aujourd'hui dans une rétrospective ou dans une soirée spéciale.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marine Turki, qui est journaliste à Mediapart.
C'est 23.